coalition qui veut agir pour la suppression des prisons et pour la remise en cause du principe de punition et de contrôle. Nous voulons nous attaquer aux murs plus ou moins visibles des institutions qui diffusent l'enfermement et la soumission dans tous les plis de la société, comme la famille, l'école, l'hôpital, les maisons de retraite, celles de la culture et bien d'autres. Le système judiciaire resserre l'étau sur les pauvres et les insoumis, les classes dangereuses en somme. Il enferme de plus en plus tôt, sous prétexte de délinquance juvénile, de plus en plus souvent en allongeant la liste des délits, et pour des peines de plus en plus longues. Et malgré une croyance tenace qui veut que la prison soit toujours réservée aux autres, la menace permanente qu'elle laisse planer sur l'ensemble de la population entretient la peur et la soumission. Longtemps tabou, la prison est devenue un sujet médiatique à la mode, pour spécialistes de toutes sortes, sociologues, médecins, criminologues, politiques, occultant toujours la parole des personnes enfermées. Bruit de tôle se veut un espace de réflexion sur les enfermements, un lien entre l'extérieur et l'intérieur des murs. Ce que nous voulons, c'est mettre en évidence les rouages d'un ordre social qui prétend gérer nos vies, nous soumettre à l'État, et désamorcer, assimiler, digérer, récupérer toute déviation, colère ou révolte. Nous rêvons d'une société sans maître ni esclave, sans coupable ni victime, sans juge ni condamné.
Vous écoutez Canal Sud sur 92.2, c'est Bruit de tôle qui commence, et l'émission de ce soir débutera avec la lecture de deux lettres, l'une de Farid El Yamni et l'autre de Paul Michalon, dont les frères ont été assassinés par la police et qui s'expriment suite à l'assassinat de Rémi Fraisse par les gendarmes mobiles le 26 octobre dernier. Le Génépi reprend sa chronique mensuelle ce soir et ils nous parleront de l'alimentation en prison. Et nous, de notre côté, on vous parlera aussi de l'Europe sécuritaire, du maintien de l'ordre, de perpétuité réelle et d'interdiction administrative du territoire. Et nous terminerons notre émission, comme d'habitude, par nos traditionnelles annonces. Donc vous pouvez nous appeler pendant l'émission au 05 61 53 36 95, de préférence pendant les morceaux musicaux. Et d'ailleurs, si vous voulez appeler tout de suite, il va y avoir une petite musique.
Éviter de ricaner au nez des déshérités. Le trafic d'influence va toujours vous profiter. Inégalité, trop fréquente fatalité. Faudrait y remédier avant le changement de mentalité. Dans l'intimité, manipuler l'actualité. Assister pour nous déconnecter de la réalité. Votre morale n'est qu'orale et la complexité de vos propos fait douter de votre sincérité. Affronter ne serait-ce qu'effleurer la vérité. Constater
Clermont-Ferrand, et donc cette lettre est adressée aux parents de Rémi Fraisse. À l'heure où, sur Paris, on condamne les manifestations violentes et où on loue les sit-ins pacifiques, je vous écris cette lettre. J'ai perdu mon frère dans des conditions très proches de celles dans lesquelles vous avez perdu votre fils. Mon frère, qui prenait tant soin de ma mère, nous a quittés. Il ne reviendra plus. La perte de mon frère était sur le coup une douleur immense que je ressens à chaque fois que l'État assassine à nouveau. Là où croit le danger, croit aussi ce qui sauve, disait quelqu'un. À chaque fois que l'État assassine, on a aussi l'opportunité de l'arrêter, de le contraindre à changer et de rendre la dignité perdue à tous les autres. Par la mort de Rémi, se noue beaucoup plus que l'histoire d'une vie. Il se noue notre vie à tous, individuellement et collectivement. La criminalisation qui a été opérée est terrible. Ça a été la même chose pour nous. J'ai compris plus tard qu'elle était voulue. Je ne voulais qu'une chose, que la justice fasse la vérité et rende la dignité que méritait mon frère, dans le calme, et que cette histoire profite à tous, à nous les gouverner, pour mieux nous aimer, et à la police pour la réconcilier avec la nation. Je pensais que la police ne pouvait accepter dans ses rangs des assassins. Je ne la connaissais à l'époque pas assez. Je me trompais. Les quartiers ont brûlé, on a appelé au calme. Chaque voiture ou chaque poubelle brûlée était vécue comme une insulte, comme une épine en plein cœur, une épine sur laquelle on appuyait. Puis le temps est passé. On nous a promis la vérité, mais on n'a eu que des mensonges, que des fausses promesses, comme tant d'autres avant nous. On nous avait prévenus, mais on n'y croyait pas. François Hollande, lui-même, avait pris ma mère dans ses bras et lui avait promis qu'il nous aiderait à faire la lumière sur la mort de son fils. Sans la justice et la vérité, on vivait le temps qui passait comme une condamnation. Nous étions toujours en prison, à suffoquer et à appeler la justice à l'aide. Et puis on a compris que notre cas n'était pas isolé, que tant d'autres familles vivaient et vivent la même chose. Il y a tant d'humiliations et de mutilations commises consciemment par la police et couvertes par la justice, tant. On a aussi découvert la manière de penser des policiers. Ça fait froid dans le dos. Voici un exemple. Mercredi dernier, suite à la manifestation sur Paris, un des policiers m'a dit 1-0 devant ses autres collègues au commissariat qui ricanaient lorsqu'ils me voyaient arborer le t-shirt « Urgence, notre police assassine ». Aucun ne l'a repris, aucun. Des exemples de ce genre, tant de Français en vivent quotidiennement. Ils n'en peuvent plus de cette police et n'en voient pas le bout. Je comprends l'appel au calme, on l'a également fait. Comprenez également que de nombreuses personnes ne croient plus en ce système qui donne une impunité de facto à la police. Comprenez que l'on ne peut concevoir la non-violence qu'à condition de supposer que le camp d'en face est capable de se remettre en cause. Ils en sont humainement incapables, parce qu'ils considèrent que remettre en cause la police, ce serait remettre en cause l'État. Depuis 40 ans, la police tue impunément, à répétition. Depuis 40 ans, on assiste à la même démarche pour noyer les meurtres de l'État, malgré les vidéos, les témoins, les évidences. Depuis 40 ans, il y a des sit-ins, des manifestations, des livres, des prises de position d'hommes politiques, des tribunes adressées au ministre de l'Intérieur. Depuis 40 ans, ça ne fonctionne pas. Voici comment ça se passe. Dépêche AFP, mensonge du procureur, enquête de mauvaise qualité et tronquée, pour aboutir sur une condamnation ridicule après de nombreuses années, voire à une absence de condamnation. Le pire, c'est que ceux qui vont enterrer l'affaire auront des promotions, et ceux qui ont tué nos frères, nos fils ou amis, eux seront traités comme des champions par leurs collègues. Telle est la réalité que vous vivrez vous aussi. Manuel Valls dit que les violences sont des insultes à la mémoire de Rémi. Mais sachez que Manuel Valls, par son inaction à combattre l'impunité policière, est le premier meurtrier de votre fils. C'est un criminel récidiviste. Il est venu à Clermont-Ferrand une semaine avant le rendu du rapport de contre-autopsie bidon dont il connaissait les aboutissants, et il n'a parlé de l'affaire que pour mieux condamner les violences de ceux que la mise à mort de mon frère révoltait. Madame, les gens se battent pour Rémi, pour leur dignité et pour leurs idéaux. Ils se battent pour vous, pour nous tous, pour que la fraternité soit effective. Ceux qui se battent connaissent assez la malveillance de nos gouvernants pour comprendre qu'on tente de nous faire croire que nous sommes dans un état de droit, alors que nous sommes dans un état de devoir. L'État ne respecte pas la loi qu'il demande qu'on respecte. Il se joue de notre corps, de notre confiance, de notre argent et de notre dignité. Il nous demande d'être à genoux. C'est un impératif catégorique. Je vous ai écrit cette lettre à vous, comme à tous ceux qui me liront, pour vous faire savoir que je comprends aujourd'hui plus que jamais combien la non-violence dans les affaires de crimes d'État a ses limites. La non-violence, par son impuissance, est parfois plus condamnable, plus meurtrière que la violence elle-même. Les gens qui nous gouvernent sont malveillants, arrivistes, sadiques et récidivistes. Ils doivent partir par tous les moyens nécessaires. C'était donc une lettre de Farid El-Yamni, frère de Wissam El-Yamni, assassiné par la police le 1er janvier 2012 à Clermont-Ferrand.
Et puis, ouais, juste pour faire un petit interlude entre les deux, quand même, il faut préciser, c'était le 1er janvier 2012 et c'était Sarkozy qui était à la présidence et lui qui fanfaronnait il y a quelques jours qu'il n'y avait pas eu de meurtre, enfin en tout cas de bavure policière pendant son mandat. Et ben voilà, en tout cas, Wissam El-Yamni, il était là. Connaissez-vous Vital Michalon? Il a été tué en 1977 à Malville par une grenade offensive, lors d'une une mobilisation écologiste.
Antinucléaire.
Hein. Antinucléaire, c'est ça.
La centrale.
Et du coup, en fait, son frère, qui s'appelle Paul, Michalon aussi, a publié une tribune dans Libération qu'on tenait à vous lire. Malville, Sivins, on recommence. Je me souviens de cette immense procession sous une pluie morne, des cirés multicolores et malgré tout de cet élan qui nous portait vers le site comme un des grands buts de notre jeunesse. Je me souviens de l'hélicoptère blanc du préfet Jeannin qui tournoyait, surveillant tout, recevant et donnant certainement des ordres. Je me souviens du pré auquel les premiers milliers de marcheurs ont accédé, les autres restant bloqués sur des trois chemins, résultat d'une habile stratégie militaire. Je me souviens de quelques excités, peu nombreux en vérité, tenant le devant de la scène au bas du pré. Et rapidement les tirs de gaz, les tirs de grenades à cadence rapide, au bruit, au souffle ou au gaz insupportable. Puis les fusils passant à l'horizontale. Je me souviens de Manfred Schultz, main arrachée par un de ses projectiles qu'il avait eu l'imprudence de vouloir relancer. Puis de Michel Grandjean, transporté en hâte, hurlant avec son pied déchiqueté. Et du brigadier Touzeau, avant-bras explosé par la grenade qu'il allait nous envoyer, mais qu'il avait tardé à lancer. Et bien sûr, je me souviens de mon cher frère, Vital, perdu de vue dans le brouillard des lacrymogènes et dont j'ai dû, peu après, reconnaître le corps à la mairie de Montrestel. Mutisme. Je me souviens que on nous a jamais rendu le ciré qu'il portait, que l'autopsie a conclu à une explosion, sans plus s'avancer, et le procès à un non-lieu. De l'énorme scandale qui s'ensuivit, du quasi-mutisme du gouvernement, celui-ci chargeant le médiateur de la République de prononcer quelques mots de condoléances, et même de l'incroyable déploiement policier lors des funérailles de notre frère, comme si l'ennemi de l'intérieur, voire celui de l'étranger, était encore à craindre. Et puis je me souviens des socialistes montant au créneau. L'occasion était trop belle d'envoyer des bonnes salves au pouvoir giscardien, mais refusant de s'associer à nous, à la famille, pour demander une loi interdisant l'usage d'armes de guerre, dont les grenades offensives, contre une manifestation, on ne sait jamais. C'était il y a bien longtemps, 37 ans, à Malville. Aujourd'hui, sur le site de Sivins, le même drame se reproduit à l'identique, tout aussi lamentable. Je ne connais pas Rémi Fraisse, mais j'imagine très bien ce que sa famille ressent et dont nous nous sentons soudain si proches. Voilà où mène l'ignorance, voire le mépris, au plus haut niveau, des questions environnementales et de l'indispensable réflexion de fond, collective et démocratique, qu'elles imposent chaque jour davantage. Les citoyens moyens sont beaucoup plus en avance que leurs élus. Voilà où mènent les vieux réflexes de maintien de l'ordre par la violence d'État et la mise en branle de matériel de guerre contre les manifestants, fussent-ils agités. Voilà où mène l'obsession de la conquête du pouvoir sans vraie réflexion sur ce que l'on en fera. Froncer les sourcils, faire de viriles déclarations et envoyer la troupe n'est toujours pas une politique. Et quel beau message à destination de la jeunesse priorité du quinquennat. Depuis Malville et d'autres drames similaires, les socialistes n'ont rien appris, rien compris, confirmant l'adage désabusé des historiens. La seule chose que l'histoire nous apprend, c'est qu'elle ne nous apprend rien.
Ce monde me rend contestataire. Pourtant je rêve de paix de bonheur. C'est peut-être pour ça d'ailleurs, et d'ailleurs je peux pas me taire. Désolé, je veux réveiller les frères et sœurs. Monde de fous, je veux pas attendre de voir ce que l'enfer réserve. Je suis peut-être idéaliste, certains me le reprocheront, mais on a besoin
soir, nous avons le plaisir de retrouver le Génépi.
Bonsoir à toutes et à tous les auditeurs et auditrices de Bruit de Tôle. Alors, je me présente, Max et Laura, bénévoles au Génépi, et enchantée d'avoir été invitée à Bruit de Tôle, que nous remercions beaucoup. Alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas, le Génépi, une petite présentation s'impose. Alors, Génépi est l'acronyme de Groupement étudiant national d'éducation aux personnes incarcérées. C'est une association œuvrant en faveur du décloisonnement des institutions carcérales par la circulation des savoirs entre les personnes incarcérées, le public et ses bénévoles. On participe ainsi au décloisonnement de la prison en établissant un lien entre les détenus et le monde extérieur. Comment s'y prend-on ? Donc, les étudiants du Génépi à l'intérieur des murs interviennent en détention de façon hebdomadaire. Donc ça peut être sous forme de soutien scolaire, d'activités culturelles ou d'activités ponctuelles comme des tournois sportifs, du slam, etc. À l'extérieur, on tend à informer et à sensibiliser le grand public sur la réalité de la prison. On parle de nos expériences en détention, on donne la parole à des acteurs prison-justice, parfois à des détenus, dont on recueille les propos. Bref, on fait en sorte que la société civile ne se désintéresse pas de la prison. Vous nous avez peut-être déjà croisés à l'occasion du festival de printemps Tôlart qui organise sur une semaine des événements en rapport avec le milieu pénitentiaire. On aura sûrement l'occasion de vous reparler de cet événement. Pour l'heure, maintenant que la présentation est faite, je laisse la parole à Max qui va nous présenter la chronique.
Bonsoir à tous, Bruit de Tôle, le directeur de Canal Sud. Bonsoir. Alors, cette chronique, qu'est-ce que c'est et cette année, qu'est-ce que ça va être ? Ben, pour l'instant, tout est à définir. C'est une carte blanche sur les mondes de l'enfermement à géométrie variable. Aujourd'hui, on a tablé sur une petite quinzaine de minutes. Qui sait ce qui se passera le mois prochain ? Ce sera peut-être 5 et ce sera peut-être 20. On ne sait pas. Alors, pour la première, on a voulu commencer avec un truc entre guillemets tranquille. C'est toujours pareil. Quand on peut parler de tout, on ne sait jamais trop quoi aborder. Alors, on a gambergé un peu, puis nous est venue l'idée de parler de bouffe. Ça parle à tout le monde, la bouffe. Qu'on soit dedans ou qu'on soit dehors, c'est primordial pour le bien-être de chacun. Et puis, c'est un sujet simple à traiter pour commencer la saison. Enfin, ça, c'est ce qu'on pensait, mais c'est un sujet sur lequel on a eu du mal à trouver des informations de base. Parce qu'en fait, la nourriture en tôle, comme le reste, c'est une question d'argent et de volonté. Les premiers mots qu'on a trouvés en commençant les recherches, c'était Sodexo, le prix exorbitant de l'épicerie, ou encore établissement, co-gestion ou gestion déléguée. Alors, qui rogne sur la bouffe pour faire des économies et qui s'en sert pour faire du profit ? Bon, c'est pas très difficile à deviner. Pour le moment, Laura nous a préparé un petit récap sur les établissements à gestion déléguée. On l'écoute.
Alors, comment on en est arrivé là, d'abord ? Donc, à vrai dire, on n'a pas trop le temps de retracer toute l'histoire de la gestion déléguée. Du coup, on va faire dans les grandes lignes. Donc, déjà, la gestion déléguée, c'est quoi ? C'est confier à un prestataire privé unique l'entretien et les services à la personne. Donc ça répond à la base au problème de surpopulation carcérale. C'est M. Chalandon, donc on se place là en 1987, qui lance cette solution à travers le programme 13 000 places. Donc de son petit nom, Albin Chalandon était garde des Sceaux de Chirac pendant la première cohabitation de 86 à 88. 2 ans pendant lesquels il a eu le temps de réouvrir la brèche de la privatisation des prisons. Il s'est tout simplement inspiré du modèle qu'il avait appliqué quelques années avant, alors qu'il était ministre du Logement et des Équipements pour redynamiser l'urbanisme et les grands travaux publics.
Il nous avait fait les chalandonnettes hein, quand il était au logement, des petites maisons qui ne duraient pas plus de 10 ans et qui s'écroulaient toutes seules. C'est les chalandonnettes, on disait oui.
Dommage qu'il n'ait pas fait la même pour les prisons qu'elles s'écroulent toutes seules.
Donc du coup, il est parti sur un modèle simple, encourager l'investissement d'acteurs privés. Mais c'est bien sûr, c'est évident pour notre cher Albin, banquier de 1952 à 68 et qui sera ensuite le dirigeant de LF Aquitaine. Mais bon, refermons cette parenthèse. Revenons-en plutôt au programme de gestion déléguée qui découle de la loi 87-432 du 22 juin 1987 relative aux services pénitentiaires. Donc, l'article 2 stipule que les fonctions autres que celles de direction, de greffe et de surveillance peuvent être confiées à des personnes de droit privé ou public. Et tout cela l'État pour recentrer l'administration pénitentiaire sur ses missions régaliennes. Donc ainsi, 25 prisons ont été construites sur ce modèle. En 2011, 45 établissements pénitentiaires sur 189 sont en gestion déléguée. Donc, deux autres plans ont succédé au précédent, le programme 4000 places sous le ministère de Méhaignerie. En découle la procédure AOT-LOA, qui veut dire autorisation d'occupation temporaire, location avec option d'achat. Donc, c'est en gros la paix confiée à un opérateur privé, le financement, la conception, la construction et la responsabilité de l'entretien et de la maintenance des établissements. Donc, sept prisons ont été construites sous ce contrat. Puis, enfin, le programme 13 200 places qui s'achèvera en 2017, ouvrant la voie au contrat PPP, un partenariat public-privé. Donc, c'est un peu le début d'une privation totale des prisons. On en viendrait presque au système américain qui privatise totalement leurs prisons jusqu'à la surveillance. Les Anglais sont bons aussi dans ce domaine. Depuis 1992, toutes les prisons construites sont financées par le secteur privé. Bon, à vrai dire, je me suis un petit peu égarée en parlant de privatisation, mais il était difficile de faire la passe sur ce qui nous pend au nez. Pour en revenir à la gestion déléguée en France, nous sommes actuellement dans la deuxième génération de contrats délégués. La première, donc on se replace dans l'objectif des 13 000 places, pardon, ouvre en 1989 des contrats de 10 ans pour 21 prisons à 4 filiales que sont GESPA, donc filiale de Suez, Dumez, de Vinci Construction, CIGES, donc Sodexo, et GESEP Égide. En 2001, la deuxième génération de gestion déléguée prend forme sur 27 prisons dans le cadre du plan 4000 places. On y retrouve Index Énergie, GESPA et bien sûr Sodexo qui s'occupe entre autres de la nourriture et du cantinage pour les détenus. Donc, je rends donc la parole à Max qui va essayer d'approfondir un peu la gestion déléguée à travers la nourriture.
Alors d'abord, commençons par le commencement, l'élaboration des menus. En établissement à gestion déléguée, les menus sont élaborés toutes les 6 semaines. Ils sont proposés par les prestataires, qui travaillent tous avec les mêmes fiches repas standardisées, puis validés par l'administration pénitentiaire en commission. Cette commission se compose de représentants de la paix, de délégués des prestataires et parfois des représentants des détenus. Les menus sont dépourvus de choix, hormis celui de ne pas manger de viande, régime qui convient en théorie aux végétariens comme à ceux qui ne mangent pas de porc. Je reviendrai tout à l'heure sur la question du choix. Dans les établissements publics, les menus sont élaborés par DSP, Direction interrégionale des services pénitentiaires, afin d'avoir, je cite, une vision globale des menus. Alors, comment se passe concrètement la préparation et la distribution des repas? Dans un établissement à gestion déléguée, pratiquement tous les repas sont préparés et conditionnés en barquettes individuelles, le plus souvent 2 à 3 jours avant de les servir. Les repas sont alors stockés dans des chambres froides, entre 0 et 3 degrés, avant d'être servis par les auxiliaires des tâches. Ils sont réchauffés soit à l'aide de chariots chauffants lors de la distribution, soit avec des fours en cuisine. Et enfin, on mange en cellule. À savoir qu'il y a quelques cas où la nourriture est préparée et servie dans la foulée, dans les centres pénitentiaires pour mineurs et dans les restaurants des personnels. Logistiquement, rien d'extraordinaire. On conditionne sur place, on met au frais et ensuite on sert. Sauf qu'ils font tout ça sans trop se poser de questions. Des questions essentielles que s'est posé le Conseil national de l'alimentation dans un rapport paru en 2011. Primo, pour établir des menus qui vont satisfaire l'ensemble d'une population, ici la population carcérale, il faut en regarder la démographie, les besoins, ainsi que les situations nutritionnelles. On sait notamment que la durée d'emprisonnement et le type d'établissement ont un impact. En maison d'arrêt, souvent en attente de jugement, avec un turnover important de nos codétenus, il faut se réadapter tous les jours à sa condition d'incarcéré. On n'aura pas les mêmes besoins qu'un détenu en maison pour peine qui, bon an, mal an, arrive à s'établir une routine. Question est également de savoir les activités pratiquées. Qui a un travail, qui fait du sport tous les jours, sans évoquer l'âge et les maladies. Bref, autant de données transversales qui rendent stupide et en théorie complètement impossible de réfléchir en termes de moyenne afin de finalement servir la même chose à tout le monde et à tous les repas. Il y a de la part des détenus un fort rejet de ce qui est servi. D'abord, d'abord peut-être parce que c'est dégueulasse et que même si on arrive à finir sa barquette, on a encore faim. Mais au-delà de ça, ce qui pousse au rejet, c'est le problème de la confiance. Comment vouloir téter le sein de cette mère qui nous enferme, qui nous bat et qui nous réduit à si peu de choses ? Hormis les quelques détenus qui travaillent au service général et qui participent à la confection des repas, les consommateurs finaux ne voient pas ce qui se passe en cuisine. S'ils ne le voient pas, alors ils l'imaginent et le fantasment. Alors oui, il y a bien des goûteurs de l'administration qui goûtent et valident avant chaque service. Mais qui sont ces gens et comment leur faire confiance ? Les rejets se font au profit de l'épicerie. Si les détenus ont les moyens, ils cantinent des produits de grandes marques, des produits qu'ils connaissaient avant d'entrer, qui sont faits dans des usines bien loin de l'atoll, des trucs rassurants et qui rappellent des souvenirs. Parfois aussi, le cantinage, c'est pour pouvoir cuisiner soi-même, par plaisir, pour se faire plaisir. C'est pouvoir se réapproprier cette démarche et se nourrir, entre guillemets, soi-même. Ça permet également de se préparer des plats plus proches des habitudes alimentaires que l'on avait avant de rentrer. Ou enfin, tout simplement, pour pouvoir partager avec son ou ses co-détenus un moment et une bouffe qui change de l'ordinaire. Parce que se faire à manger soi-même, c'est aussi et surtout avoir le choix de ce qu'on a dans la gamelle. Encore une fois, ça c'est si tu as les moyens. En théorie, le prestataire épicier ne peut pas excéder les 10% de marge et ne pas vendre plus cher que l'hypermarché le plus proche. Pourtant, l'Express a fait une enquête en 2011 sur le coût de la vie en prison. Il en ressort des chiffres qui n'ont rien à voir avec la théorie. Par exemple, dans une prison en Picardie, la bouteille d'eau voit son prix augmenter de 102% par rapport à la supérette la plus proche. En Picardie toujours, la tablette de chocolat prend 129% sur le catalogue de cantine. Et à Saint-Malo, le PQ prend 77%, passant de 22 centimes à 39 centimes le rouleau. Alors faut pas se leurrer, les 10% de marge soi-disant maximum que l'épicier peut se faire sont largement explosés sur beaucoup d'articles et beaucoup de tôles. C'est ça le tout privé. Dans certaines prisons à gestion déléguée, tu travailles pour une entreprise privée qui te paie des clopinettes. La gestion collective est assurée par une autre entreprise privée qui te sert de la bouffe de merde, passez-moi l'expression. Et c'est la même entreprise qui t'arnaque sur les prix de la cantine, sur laquelle tu te rabats pour manger avec un minimum de décence. L'impossibilité de faire des choix participe de ce qui déshumanise. Manger, ce n'est pas juste se nourrir. On devrait avoir autant envie que besoin de manger, par plaisir. Dans les murs, c'est pas vraiment comme ça, parce qu'on n'a pas vraiment le choix de ce qu'on peut manger. C'est donc nourris-toi ou cantine. Et si tu n'as pas les moyens de cantiner, alors c'est nourris-toi ou crève. Pas un seul effort n'est fait. Il s'agit donc d'élargir les choix à plusieurs plats par repas. Et au-delà de la cuisine collective, il faut élargir et aligner les prix à la baisse du catalogue de cantine, histoire de pouvoir, encore une fois, avoir le choix. Enfin, si c'était aussi simple. Parce qu'il y a aussi le problème des normes et des règlements. Par exemple, on trouve dans les catalogues de cantine des poêles et des produits frais, alors que l'établissement interdit de cuisiner en cellule et ne propose pas de matériel de stockage des produits frais. Tu crois avoir le choix, mais en fait, tu l'as dans l'os. Certains établissements autorisent les plaques chauffantes, alors que d'autres tolèrent seulement des produits de chauffe instantanée type Esbit, ces espèces de mini-savons chauffants qui, lorsqu'ils brûlent, dégagent des fumées toxiques, d'autant plus dans un espace aussi peu aéré que celui d'une cellule. Alors, certainement que si on commence à chercher des solutions, la première qui nous viendrait serait la plus simple, à savoir d'arrêter d'enfermer les gens. Bon, on n'en est pas vraiment là. Donc tournons-nous de nouveau vers le Conseil national de l'alimentation, qui conclut son rapport par des recommandations. Je cite la première. L'amélioration de l'alimentation en milieu carcéral passe en premier lieu par une meilleure connaissance et une mesure précise des besoins nutritionnels spécifiques, des pratiques de consommation et des attentes des personnes détenues. Fin de citation. Il s'agirait donc de garantir une alimentation suffisante en quantité et tenant compte des facteurs propres à chaque individu. Niveau de sédentarité, niveau d'activité physique, âge, sexe, état de santé. Dans un même temps, il faut veiller à ce que la qualité de la restauration collective soit de mêmes exigences que celle des autres services publics, comme par exemple les restaurants scolaires ou hospitaliers. Mais pour tout ça, il faut se bouger le train et débloquer des fonds pour mener des études sur trois volets primordiaux pour la bonne remise en place d'un système alimentaire décent, à savoir la mesure des besoins, l'analyse des pratiques et l'évaluation des attentes. Voilà la mission, établir un panel d'établissements représentatifs et déployer des travailleurs du médical, de la diététique et des sciences sociales pour aller fouiner en cuisine et dans les cellules. faire rigoler l'administration pénitentiaire. L'autre recommandation qui paraît sensée, mais également difficile à appliquer, est la question d'une meilleure appropriation par les personnes détenues des aliments mis à leur disposition en restauration collective et par la prestation cantine. Je cite « La notion d'appropriation renvoie directement à la faculté concrète pour les personnes détenues de disposer d'un choix de menu dans le cadre de la restauration collective, d'accommoder à leur convenance certains des plats qui leur sont servis par le service de restauration collective, de cuisiner leurs propres plats sous réserve de conditions d'hygiène et de sécurité, de participer au choix des menus et à l'élaboration des repas, de faire des choix éclairés dans leur pratique alimentaire, s'agissant en particulier de l'assaisonnement des plats et de leur achat à la cantine. Matériellement, ça risque d'être compliqué. Pour élaborer ces repas, il faut avoir le matos. Et pour l'instant, il y a plus de problèmes que de solutions. Impossibilité de conserver certains aliments, problème d'ampérage rendant impossible le branchement de plaques chauffantes en cellule, risque d'accident, absence de salle hors cellule pour cuisiner. Et au-delà du matériel, cela nécessite qu'on leur accorde la faculté concrète de disposer d'un choix. Voilà ce qui risque de poser problème. Car s'il est simple de nourrir du bétail en leur donnant à tous le même grain, il est très compliqué dans un processus de déshumanisation du détenu de prendre en même temps en compte les spécificités de chaque individu. Alors, on pourrait continuer longtemps sur la cantine, son offre et ses prix, ainsi que sur la meilleure prise en compte des régimes alimentaires spécifiques dus aux pathologies, à l'âge, aux conditions d'incarcération, etc. La liste est très longue. Nous, on s'arrête ici pour aujourd'hui. C'était la première chronique du Génépi de cette année, et on se retrouve tous les deuxièmes jeudis du mois au sein de Bruit de Tôle, que l'on remercie encore une fois de nous avoir fait cette place à leur côté sur les ondes de Canal Sud.
Merci, à vous.
Merci beaucoup pour cette chronique.
Mais qu'est-ce qui se passe? Trop tard et réalise assis sur le plaidoir. Toujours les mêmes qui portent la croix. Ces hommes vêtus de noir l'empani. Mais rien n'empêche d'apporter plus de terreur dans leurs erreurs.
Nos yeux pas bleus brillent dans le noir seulement. Brisés moralement, oralement, on brise nos châtiments.
Loin de la misère cachée sous son manteau. Tu vois Marseille, c'est beau sur les
effet, il y a des forces de l'ordre sudistes, c'est-à-dire qui appartiennent au syndicat sud. Alors, en effet, ils disent, c'est par rapport en réaction à la mort de Rémi Fraisse, et ils disent que le débat qui couvre la mort de Rémi Fraisse est forcément politique, puisque l'origine de cette mort est politique. Elle a sa source dans un refus de débattre, qui a le soutien du gouvernement. Mais à quoi sert alors la politique si elle ne veut pas débattre? C'est l'introduction de leur texte. Par contre, je sors, alors c'est des extraits, hein, donc je suis totalement malveillante et je choisis ce que je veux. Hein, donc tant pis, si vous voulez l'intégralité, vous allez sur Internet et vous cherchez leur communiqué. Donc par exemple, ils disent « La direction de la gendarmerie, mais aussi le préfet et le ministre, portent toute la responsabilité. Il est en effet stupéfiant de pouvoir comprendre que la police ou la gendarmerie serait incapable d'empêcher les casseurs d'agir, alors qu'elles en tirent a posteriori prétexte pour utiliser des armes de guerre contre la population. »
Et ils oublient de dire que les policiers participent un petit peu aussi.
Oui, mais bon, bon ça, écoute, c'est une bonne question. Alors par contre, voilà comment ils vont, ils critiquent après. Ils disent, il y avait une époque où la police infiltrait les mouvements pour anticiper les violences. Et il est lassant d'entendre aujourd'hui évoquer des groupuscules radicalisés sans même être capable d'en citer un seul précisément. Cogner, voire tuer des manifestants au prétexte de lanceurs de cocktails Molotov, sans jamais en arrêter un seul ou être capable de prévenir leur action, alors que la police était capable de s'informer sur des mouvements clandestins autrement plus sérieux, c'est donc une imposture, un mensonge. C'est oublier que le maintien de l'ordre est une mission qui doit se faire nécessairement en amont des manifestations, ne serait-ce que pour la sécurité des gardes mobiles et des CRS eux-mêmes, parce que le ministre de l'Intérieur est garant de l'exercice des libertés publiques. Donc, ben voilà, c'est infiltration, puis aussi un peu la politique de police préventive, hein, si on les connaissait, qu'on les arrêtait à l'avance. Bon. Alors, ils disent en effet que de vraies polices et gendarmeries qui savent infiltrer des milieux dangereux demandent aussi que des millions d'euros de frais d'enquête soient réellement affectés aux enquêtes, plutôt que de finir dans la poche de quelques hiérarques négligeant le service public, comme l'affaire Guéant, disent-ils. Ensuite, ils terminent quand même, parce que après avoir dit tout cela, ils remettent aussi en cause tout le processus de à quoi sert la police, la société, etc. C'est vrai qu'ils font des belles phrases quand même. Hein. Ça termine par « Le problème n'est pas le policier ou le gendarme de base. La cause est à chercher dans le sommet de la hiérarchie qui donne des ordres en invoquant et défendant une doctrine d'emploi dépassée et dangereuse au mépris tant des fonctionnaires que des manifestants. » On est d'accord là-dessus, mis à part que chacun est responsable de ses actes, tout de même, non ?
Et du boulot qu'il fait.
Et du boulot qu'il choisit, bon, voilà. Le décès Rémi Fraisse soulève le débat de cette logique funeste de Cerbère du capital pour garantir l'appétence financière et protéger l'impécuniosité.
Tiens, c'est sudiste.
Sortez vos dictionnaires, chronique de ceux qui ont les plus hauts revenus. Ils en veulent plus, impécuniosité.
Ils veulent montrer que les policiers sont...
c'est à peu près ça.
Et puis ils veulent montrer que tous les policiers ne sont pas des crétins et qu'ils ont du vocabulaire. Voilà.
Rémi Fraisse est mort pour des millions qui ne le concernaient pas plus que celui qui a lancé la grenade. Ils ne sont pas très bien payés peut-être. Ceux qui sont à incriminer sont les responsables qui ont placé le gendarme où il se trouvait, dans la situation qu'il a connue, lui ont mis la grenade dans la main et lui ont demandé de la lancer. Lancer une grenade offensive sur des civils n'est pas un acte de policier ou de gendarme, je rajoute entre parenthèses sudiste, hein, parce que les autres, ils ont l'air de le faire normalement. C'est un travail de tueur. Ceux qui prétendent le contraire confondent l'administration et la mafia. Donc, ils s'offusquent et, quelque part, un peu l'atteinte à leur métier. Bon, après tout, ils ont le droit de s'offusquer.
Bon, on ferme la page sur Rémi Fraisse et on passe à l'Europe sécuritaire.
Oui. Voilà, alors l'Europe sécuritaire, ça c'est des experts, hein, parce qu'il y a toujours des experts qui réfléchissent un petit peu.
Heureusement qu'ils sont là d'ailleurs pour réfléchir à notre place.
Oui, parce que nous on est un petit peu trop dans le quotidien, là ça va pas. Et en effet, eux, ils ont sorti en 2009 un bouquin qui s'appelle Perspectives de 2020 pour la défense européenne, et où ils disent que l'Union européenne doit se préparer à mettre fin aux moyens de la force militaire, aux grèves et aux manifestations. Parce que du fait de l'inégalité sociale grandissante, dans une économie mondialisée, du nombre de conflits armés croissant à l'intérieur des frontières de l'Union européenne, eh bien, tout ça va se multiplier inévitablement. Donc c'est une étude, et en fait, il y a eu un compte-rendu de cette étude qui a été présenté dans une radio allemande le mois dernier, et qui donc reprend en résumé ce rapport dans le cadre de la politique étrangère et sécuritaire conjointe. Les responsabilités de la police et des forces armées sont de plus en plus fusionnées et les capacités de lutte contre les protestations sociales renforcées. Et en fait, à un moment donné, il s'agissait l'intervention dans des pays extérieurs à l'UE. Mais fort heureusement, l'article 222 du traité de Lisbonne permet le déploiement de l'armée et d'unités paramilitaires à l'intérieur des États de l'UE. Alors, celui qui en fait le plus dans ce rapport, il s'appelle Thomas Ries, il est directeur de l'Institut suédois des affaires internationales. Et donc, il suggère que l'Union européenne devra combattre de plus en plus fréquemment les problèmes sociaux par des moyens militaires. Donc en fait, ces problèmes sociaux, ce n'est pas tellement les causes, c'est plutôt les réactions, si j'ai bien compris. Donc la principale question sécuritaire est la lutte des classes dans l'économie mondiale mondialisée. C'est ce qu'il dit, c'est M. Ries, c'est un expert. En effet, il voit bien les choses, mais j'ai l'impression qu'il ne répond pas tout à fait comme nous, on voudrait y répondre. Ce qu'il dit aussi, c'est que l'Union européenne doit se rapprocher de ces entreprises qui disposeront, alors il calcule à peu près 1000 entreprises qui disposent du plus gros revenu, un pourcentage de la population mondiale, ils correspondent à 0,1%, soit 7 millions de personnes. Mais le contingent des centaines de millions d'affamés et de population mondiale est beaucoup plus important. Et donc, il dit que l'Union européenne doit se rapprocher, doit être en symbiose avec les entreprises mondiales. Ah. Ces grosses entreprises qui ont besoin de l'État et l'État a besoin d'elles.
Bah évidemment.
Voilà, ça c'est ce qu'il dit.
Et alors, vraiment, là-dessus, il est clair, quoi.
Voilà. Hein, et pour montrer que ce n'est pas de la prospection de fiction, eh bien, un conflit social donc, qui se développe inévitablement, eh bien, déjà, l'armée est intervenue. Alors là, ça, c'était lors des grèves des éboueurs de Naples en Italie, la grève des pompiers de Liverpool en Angleterre et les aiguilleurs du ciel aux États-Unis. Alors l'armée intervient aussi pour empêcher les grèves, mais aussi pour faire fonctionner parfois les infrastructures.
Ah oui, carrément, donc ils prennent la place des grévistes, quoi.
Voilà, depuis, ça s'est repassé aussi lors de grandes grèves en Espagne et en Grèce. Alors, lui, ce qu'il dit, c'est que les défauts de fonctionnement de la société donc vont augmenter de plus en plus et il faut s'en protéger. Défauts de fonctionnement, il entend par là les conséquences sociales du système de profit capitaliste mondial, tout comme les guerres qui sont menées pour garantir son maintien. Mais ce sont là deux composantes fondamentales du système capitaliste qui poussent de plus en plus des gens dans la pauvreté et aussi à devenir des réfugiés. Et donc, il dit un peu plus loin que la paix entre les grandes puissances est totalement et entièrement tributaire du fonctionnement de l'économie mondiale. Voilà, je crois que la boucle est bouclée, capitalisme, armée, etc. Mais en fait, ce qui est important, c'est que ce rapport a quelque chose de très officiel, et que des gens travaillent là-dessus pour arriver à ce que soit légal et de plus en plus l'intervention de l'armée. Alors quand on dit l'intervention de l'armée, souvent on pense aux militaires. N'oublions pas que les gardes mobiles, etc., sont des militaires. Donc on peut penser qu'eux aussi font partie de... Alors pour résoudre, comment il a dit, résoudre les problèmes sociaux, n'est-ce pas ?
Allons-y.
Oui.
Si je comprends bien, ces experts-là soulèvent le problème que le capitalisme engendre des inégalités sociales qui engendrent de la gronde du peuple, et eux, ils disent, du coup, il faut que l'armée soit là pour intervenir au lieu de remettre en cause tout simplement le système capitaliste.
Voilà, ils disent,
on a bien compris, c'est exactement ça.
Il faut prospecter que sur le sujet à 2020, ça ne fera qu'augmenter. Mais il y en aura de plus en plus. Okay. Et qu'il faudra l'armée.
Toujours maintien de l'ordre.
Ah bah oui, on continue sur le maintien de l'ordre avec un petit texte paru sur le site « Tant qu'il y aura de l'argent ». Cela a commencé avec le mouvement altermondialiste. Celui-ci a été l'occasion pour les manifestants de l'Europe entière de se rencontrer et de lutter ensemble, voire d'affronter la police. Ce que l'on sait moins, c'est qu'il a aussi été l'occasion pour les différentes polices de collaborer étroitement et de mettre en place de nouvelles méthodes de maintien de l'ordre. Ainsi, les mobilisations altermondialistes furent le prétexte à l'introduction de moyens de fichage et de quadrillage inédits, mais aussi à une collaboration à l'échelle européenne des forces de police. Ce sont des contrôles aux frontières permettant d'empêcher des militants d'accéder aux lieux de manifestation. C'est aussi le blocage de zones urbaines entières, comme par exemple au contre-sommet de l'OTAN de Strasbourg, où l'autoroute menant à la ville et de larges portions du centre-ville furent bloquées par la police.
Oui, on peut aussi préciser le 22 février à Nantes, où ils ont bloqué une bonne partie du centre-ville. C'est un peu le même mécanisme.
Ce durcissement du maintien de l'ordre est plus global. Il ne concerne pas que les contre-sommets altermondialistes. Par exemple, en Angleterre, à partir des années 80, sous le gouvernement de Margaret Thatcher, dans un contexte de conflits sociaux exacerbés, grève des mineurs, émeutes contre la poll tax, le maintien de l'ordre se durcit et va se militariser. On constate l'apparition d'unités ayant une culture du conflit et du maintien de l'ordre très dure, telles que les SPG, Special Police Groups. En France, il est possible d'observer un durcissement similaire. Ainsi, Hassan Belmessous explique dans son livre « Opération banlieue » qu'il y a une hybridation entre militaires et policiers dans le maintien de l'ordre dans les cités et quartiers populaires. Mathieu Rigouste trace de son côté dans son livre « L'ennemi intérieur » un parallèle entre les méthodes de la guerre contre-insurrectionnelle mises en œuvre au cours des guerres de décolonisation et les récentes mutations du maintien de l'ordre dans les zones urbaines sensibles. Les populations sont perçues comme susceptibles d'héberger un ennemi intérieur et traitées en conséquence, selon un modèle inspiré des guerres coloniales. En France, les lois encadrant le maintien de l'ordre ont été changées pour permettre ce durcissement. C'est le sens de la refonte du Code de la sécurité intérieure en 2011 et surtout du décret numéro 2011-794 du 30 juin 2011. Il permet l'utilisation d'armes à feu par la police sans qu'il n'y ait de situation de légitime défense. Donc il faut le rappeler parce qu'il y a encore quand même beaucoup de gens qui pensent que la police ne peut pas utiliser d'armes en dehors des situations de légitime défense et ce n'est pas le cas.
Amal Bentoussi, on parle pas mal. Et ça peut être...
Donc cela veut dire qu'il permet à la police de tirer légalement à balles réelles sur les manifestants, ce qui peut être utile à la répression dans un contexte insurrectionnel, mais n'est pas appliqué de nos jours. Par contre, il légitime et banalise l'usage d'armes à feu dites non létales, c'est-à-dire censées ne pas provoquer la mort, flashball et autres dérivés, ainsi que les grenades de désencerclement et grenades offensives, celles dont l'utilisation a provoqué le décès de Rémi Fraisse. L'introduction et la banalisation de ces armes de maintien de l'ordre est la conséquence de la nouvelle doctrine contre-insurrectionnelle du maintien de l'ordre. Elles sont toujours non létales, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas conçues pour tuer, même si elles peuvent le faire. Par contre, elles sont beaucoup plus dévastatrices pour leurs victimes. On peut citer le flashball, qui tire des balles en caoutchouc très puissantes, les grenades de désencerclement, qui ont le même effet que le flashball et saturent une zone d'éclat de flashball et qui ne font pas vraiment dans la dentelle. Enfin, il y a les grenades offensives ou à effet de souffle qui assourdissent, désorientent et qui, à courte portée, peuvent causer beaucoup de dommages. La conséquence de ces évolutions est la création d'une zone grise entre maintien de l'ordre classique et répression militaire, d'une continuité entre non létal et mortel. Le résultat direct de la mise en place de ce nouveau maintien de l'ordre a été une brutalité policière accrue. Les mutilations sont devenues plus fréquentes et on ne compte plus les yeux perdus à cause de tirs de flashball. À l'heure où nous écrivons ces lignes, c'est Rémi Fraisse qui a perdu la vie à cause d'une grenade offensive sur la ZAD du Testet. Ces nouvelles lois sont la matérialisation d'une militarisation du maintien de l'ordre ou plutôt d'une hybridation entre policiers et militaires. Par ailleurs, l'armée est aussi formée au contrôle des foules, ce qui lui permet de faire du maintien de l'ordre à l'étranger, par exemple au Kosovo. Cela lui permet aussi d'intervenir en France, comme le permet la loi, depuis le décret 2007-586 du 24 avril 2007, ce qui fait froid dans le dos. En dernier ressort, elles peuvent être requises pour des opérations de force nécessitant des mesures de sûreté exceptionnelles. Ce durcissement a plusieurs conséquences. La première est à notre désavantage. La répression est beaucoup plus dure. Le fait de risquer de perdre un œil, voire la vie, en allant manifester, peut en décourager plus d'un ou une, ce qui est très compréhensible. D'un autre côté, une des tactiques du pouvoir a été de diviser manifestants violents et non violents. C'est beaucoup plus difficile à faire lorsque n'importe quel manifestant peut perdre un œil. De plus, vis-à-vis de l'opinion publique, il est beaucoup plus difficile de délégitimer des casseurs qui jettent des pierres qui ne blessent pas les CRS lorsque les casseurs repartent avec des blessés et des morts dans leur rang. Enfin, une brutalité policière accrue risque d'avoir un effet inverse. Elle peut pousser des personnes qui, au départ, n'avaient pas fait le choix de la violence à rejoindre les rangs de ceux qui résistent de manière plus dure. En tout cas, la balle est dans notre camp.
Ouais, et puis rapidement, parce qu'il nous reste 5 petites minutes, mais on voulait revenir ce qui concerne la prison et le juridique, la législation, en tout cas les jurisprudences, puisque la perpétuité réelle en France a été approuvée par la justice européenne. Alors je ne sais pas si le nom de Pierre Baudet ne vous parle, mais en tout cas, vous connaissez peut-être Pierrot le Fou. Bah oui, forcément, il est forcément fou. Bon, bref, condamné en 2007 à la perpétuité incompressible. Et du coup, là, il avait lancé une procédure devant la Cour européenne des droits de l'homme pour dénoncer un traitement, enfin, en tout cas, il utilisait un article de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 8, qui met en avant les traitements inhumains et dégradants. Et là, bah, son recours a été rejeté. Le droit français offre, donc selon la Cour européenne des droits de l'homme, le droit français offre une possibilité de réexamen de la réclusion à perpétuité qui est suffisante au regard de la marge d'appréciation des États en la matière. Voilà, c'est donc en 2007, Pierre Baudet, du coup, 66 ans, avait été le premier à être condamné à cette peine instaurée en 1994 pour 3 meurtres particulièrement violents, nous dit le papier. Enfin, voilà. Et depuis, elle n'a été prononcée que pour 3 autres personnes, dont Michel Fourniret, etc. Donc, Pierre Baudet estimait que sa condamnation à la peine la plus lourde du code pénal français, la réclusion à perpétuité incompressible, qui interdit tout aménagement de peine durant une période de 30 ans. Lui, il considérait que ça violait la Convention européenne des droits de l'homme qui interdit les traitements inhumains et dégradants. En 2013, la Cour avait donné gain de cause à des condamnés britanniques qui, eux, remettaient en cause les peines incompressibles pratiquées au Royaume-Uni. Effectivement, la Cour a estimé qu'elles étaient assimilables à un traitement dégradant. Mais là, en France, au bout de 26 ans, donc c'est-à-dire quand lui, Pierre Baudet, il aura 87 ans en 2034, il pourra demander un aménagement de peine. Donc, c'est pas une vraie perpétuité pour la Cour européenne. Et donc, du coup, on continue à enfermer jusqu'à mort, alors que on a quand même la peine de mort a été quand même abolie à ce qui paraît, quoi. Bon, mais voilà, peu importe ce qu'il a fait, hein, c'est pas ça la question. Hein, mais voilà, il crèvera en prison.
Et là, comme le temps file, on passe directement aux annonces.
Ouais.
L'annonce, voilà, c'est pour ce soir et c'est tout à l'heure, là, pour 20h30. On vous donne rendez-vous au cinéma Utopia, c'est rue Montardi à Toulouse. Et c'est pour la projection unique du film Sur les toits, en présence donc du réalisateur Nicolas Drolk, et organisé par Bruit de Tôle et L'Envolée. On vous attend donc voir ce documentaire de Nicolas Drolk sur avec des ex-détenus de la prison de Charles III à Nancy et Toul. Serge Livrosé, Maître Leclerc, Daniel Defer, qui en fait, à partir d'entretiens, parlent de cette époque et des révoltes qu'il y avait dans les prisons.
20h30 à l'Utopia.
C'est 20h30 à l'Utopia.
Et alors demain soir, vendredi 14 novembre, il y a une soirée de soutien aux inculpés du 1er et du 8 novembre au CSA de la Créa. Alors qui sont ces inculpés? Alors du coup, c'est des personnes qui ont été arrêtées suite aux manifestations contre les violences policières qui ont été organisées après la mort de Rémi Fraisse. Et sur les 21 interpellés entre 10h du matin et 23h59 le samedi 8 novembre, 11 ont été remis en liberté avec convocation en vue d'un rappel à la loi, 5 ont été déférés au parquet à l'issue de leur garde à vue et convoqués pour être jugés ultérieurement, certains ont été placés sous contrôle judiciaire, 5 ont été déférés en comparution immédiate, dont 1 a demandé le report du jugement pour préparer sa défense, et 4 qui ont accepté d'être jugés sans délai ont été condamnés à des peines de prison ferme. 4 mois avec mandat de dépôt pour l'un, donc ça veut dire qu'il est en gros parti en prison directe, 3 mois pour un autre sans mandat de dépôt, ou assorti du sursis, 3 mois pour les deux. Et donc il y a donc une soirée de soutien au CSA de la Créa, donc c'est 61 boulevard de la Marquette, au métro Canal du Midi, et donc c'est le vendredi 14 novembre, à 20h il y a une bouffe à prix libre, à 21h une chorale, à 22h un open mic, et à 23h un groupe d'électro Cumbia.
Voilà, et samedi, si le cœur vous en dit, et même si le cœur vous en dit pas, il y a une mobilisation nationale contre tous les centres de rétention administrative, ces centres où on enferme les personnes étrangères parce qu'elles n'ont pas leurs papiers. Alors, c'est un communiqué de la CLIM, le collectif de lutte et d'information migrants de Toulouse, qui nous dit fermeture des CRA. Depuis 15 ans, près de 300 000 personnes, ont été enfermées de force dans les centres de rétention administrative. Donc en 2012, 44 000 personnes ont été détenues par l'État français dans les 24 CRA répartis dans tout le pays. Les CRA doivent fermer, la liberté de circulation doit être sans frontières, sans passeport, l'enfermement des personnes sans papier doit cesser. Alors ils font un rappel sur les opérations européennes de contrôle et d'arrestation des migrants et nous disent qu'ils vont être renforcés. Les contrôles, notamment aux abords de la Méditerranée, voilà. Hein, c'est vrai que y a trop de morts qui arrivent sur nos côtes. Hein, voilà, c'est ça.
Et, peux juste rappeler le lieu de rendez-vous
Bien sûr. Le rassemblement aura lieu le samedi 15, donc samedi qui vient, à 15h devant le centre de rétention à Cornebarieux. Donc Cornebarieux, c'est juste à côté de Toulouse. Le centre de rétention est situé avenue de Latécoère, 31700 Cornebarieux. Et il y a un départ en covoiturage. Rendez-vous à 14h sur le parking du métro Borde Rouge. Donc ramenez votre voiture si vous pouvez. Départ prévu à 14h30 du parking de l'Intermarché de Cornebarieux, à quelques centaines de mètres du centre de rétention.
Voilà, c'est voilà. Bruit de tôle qui se termine. Donc vous pouvez réécouter l'émission puisqu'elle est rediffusée le vendredi de 17h à 18h. Et vous pouvez nous écrire à Bruit de tôle, Canal Sud, 40 rue Alfred Duméril, 31400 Toulouse, ou bien par internet, bruit au pluriel, de tôle, T-O-L-E-S, @no-log.org. Et puis, voilà, on vous attend tout à l'heure à Utopia. C'est bon courage et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Et une pensée pour ceux qui sont à l'intérieur.
L'air pur est bon pour la santé partout, si